Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêts à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du nord de l'île de Montréal.
Bien le bonjour, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS.
Allô, je m'appelle Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur dans le même CIUS.
Comment ça va?
Hey, super bien, vous autres.
Écoute, le printemps amène tout plein de belles températures. Je suis vraiment enthousiaste.
Mon Dieu, je vous ai rarement vu d'aussi bonne humeur.
Ben regarde, j'ai des enfants qui n'ont pas été malades depuis 2 semaines. Quasiment 2 semaines.
Chapeau, Oli, chapeau. Mmh,
voilà.
Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, nouvel épisode aujourd'hui. Épisode qu'on pourrait appeler mise à jour, je présume. Mise à jour sur la PrEP. Donc, on avait fait un épisode, ça fait longtemps, hein, Oli? T'étais pas là encore, je pense, Ami, on n'en parle même pas.
Même pas, épisode 136.
Ben voilà, 136 sur la PrEP, où on avait parlé là, principalement de la PrEP orale. On va pouvoir parler aujourd'hui des nouveaux produits disponibles. Fait que, avant de rentrer dans les produits, Oli, je pense que tu voulais nous refaire quand même une petite mise en contexte PrEP, là.
Mm-hmm. Ben, petite mise en contexte VIH, qui reste quand même un enjeu de santé publique bien important au Canada. Quand on regarde les dernières données de l'Agence de santé publique du Canada, on recensait 2288 nouveaux cas déclarés de VIH en 2024. C'est les statistiques les plus à jour, ce qui correspond techniquement à une diminution de 3% par rapport à 2023. Ça semble bien à première vue. Le VIH serait en recul si on regarde ça d'une année à l'autre. Par contre, il faut dire qu'on avait eu des hausses de 20-25% les années d'avant. Donc, quand on regarde de 2020 à 2024, sur plusieurs années, on remarque quand même que l'incidence du VIH a augmenté d'environ 15% au Canada, ce qui est quand même assez inquiétant, on va se le dire.
Ouais, là, c'est sûr que, bon, on dirait, tu me dis 2020-2024, il y a une partie de moi qui entend pandémie, post-pandémie, mm-hmm. Faut que je sais pas exactement là, si on met ça en contexte sur une plus longue période, mais dans tous les cas, bref, c'est certainement un problème de santé qui est encore d'actualité, là.
Mm-hmm, tout à fait. Puis, une des façons assez efficaces de réduire la transmission du VIH, c'est la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Et, tu sais, la PrEP, ça existe quand même depuis plusieurs années. Puis, malgré tout, on reste pas super bon en pratique, je pense, pour identifier nos patients plus à risque, pour parler de PrEP avec eux. Parce que je regardais les dernières statistiques canadiennes. Là, on parle d'environ 1 personne sur 1000 au Canada qui utilise la PrEP, 0,1%. Des personnes, ce qui reste, somme toute, assez peu utilisé.
Ouais, ben, on dirait que c'est décevant, mais on dirait que je ne suis pas étonné de ces chiffres-là. Je ne sais pas toi, mais en pratique, j'ai l'impression qu'en tout cas, là, je parle juste de notre expérience locale, là, je ne sais pas ailleurs si on fait mieux, mais on dirait que j'ai l'impression qu'on pourrait porter plus attention à ça, certainement.
Mm-hmm. Tout à fait d'accord.
Fait que, justement, Oli, je pense que tu avais sorti aussi les dernières recommandations sur les populations à considéré pour discuter de PrEP?
Mm-hmm. Ben, je pense que c'est important de les mentionner justement parce qu'on n'a pas tendance à bien identifier ces patients-là qui seraient plus à risque et avec qui ça serait, disons, plus payant de discuter de PrEP. Donc, le ministère de la Santé nous cible plusieurs populations plus à risque. Donc, on a d'abord les ARSA, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, et les femmes transgenres séronégatives qui ont des relations sexuelles anales non protégées par un condom dans les 6 derniers mois ou qui ont eu une syphilis ou une ITS bactérienne anale dans les 12 derniers mois, désolé, ou qui ont des relations sexuelles avec un partenaire séropositif dont la charge virale n'est pas indétectable ou qui ont déjà utilisé plus d'une fois une prophylaxie post-exposition. Donc, on voit qu'on a quand même ciblé certains patients qui ont probablement des pratiques sexuelles un peu plus à risque.
Ça fait du sens.
Ça fait du sens. On a aussi, dans les recommandations, les ARSA et les femmes transgenres qui ont consommé des substances psychoactives à l'occasion de relations sexuelles. Les ARSA et les femmes transgenres qui ont eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 6 derniers mois. On mentionne aussi les hommes et les femmes hétérosexuelles qui ont eu des relations sexuelles anales ou vaginales non protégées par un condom avec une personne qui a le VIH avec une charge virale détectable. Puis finalement, on nous dit qu'on pourrait envisager la PrEP pour d'autres populations plus à risque. On mentionne les personnes hétérosexuelles qui ont des relations sexuelles vaginales ou anales non protégées par un condom avec un ou plusieurs partenaires de statut VIH inconnu qui appartient à un groupe dans lequel la prévalence du VIH serait plus élevée. Puis là, on nous mentionne plein de patients dans cette catégorie-là. Puis on mentionne aussi qu'on pourrait envisager la PrEP pour les personnes qui partagent du matériel d'injection de drogue.
Fait que, tu sais, tout ça, là, on avait fait le tour, comme on disait, dans l'épisode 136. Il y a des études randomisées contrôlées qui ont démontré l'efficacité de la PrEP chez tous ces genres de populations-là. Il y a peut-être certaines extrapolations, là, mais même pour les utilisateurs de matériel d'injection, par exemple, là, il y avait des belles études randomisées contrôlées en bonne et due forme, puis tout ça. Fait que, on sait que la PrEP, certainement, il y a de l'intérêt à le considérer, à le conseiller, à le prescrire chez un paquet de monde. Puis, ben, je pense que tu fais bien de nous le rappeler, puis de nous rappeler que on pourrait probablement faire mieux, là.
Puis la première étape, c'est probablement de bien documenter les habitudes sexuelles de nos patients, hein? Puis à ce moment-là, si on se rend compte que la personne fait partie d'une population plus à risque de contracter le VIH, ben on peut discuter de PrEP avec elle. Puis jusqu'à tout récemment, on avait deux options de PrEP et qui étaient uniquement disponibles Péros. On a l'emtricitabine, tenofovir, disopropyl, fumarate. Là, pour les besoins de l'épisode, on va se le dire, c'est extrêmement compliqué et habituellement, il faut utiliser uniquement les noms génériques, mais on va l'appeler par son petit nom commercial, le Truvada. Et on a aussi l'emtricitabine, tenofovir, alafenamide, le Descovy. On va appeler par son nom commercial pour le reste de l'épisode.
Je pense que c'est raisonnable, puis ça fait long un peu, là.
Un petit peu long. Donc là, c'est dans ce contexte-là qu'on a des nouvelles options de PrEP à offrir aux patients, notamment le cabotegravir, là, une PrEP injectable qui va être pas mal le gros de notre épisode aujourd'hui.
Donc oui, je vais vous parler du cabotegravir qui est commercialisé sous le nom d'Apretude. Donc, le cabotegravir, c'est un inhibiteur de l'intégrase du virus de l'immunodéficience humaine. C'est un médicament qui a été approuvé par Santé Canada en 2024 comme PrEP pour réduire le risque de transmission sexuelle du VIH de type 1. Je fais une petite parenthèse, il existe deux sous-types de VIH. Le VIH de type 1, c'est vraiment celui qui est de loin là, le plus fréquent puis qui est responsable d'environ 95% des infections par le VIH. C'est celui qui est le plus virulent puis celui qui est le plus répandu à travers le monde. On a le VIH de type 2 qui, lui, est moins virulent, se transmet moins facilement puis se retrouve surtout en Afrique de l'Ouest. La raison pour laquelle tu sais, que je voulais juste en glisser un mot, c'est qu'en fait, c'est deux rétrovirus qui ont sensiblement le même impact clinique, mais biologiquement sont différents. Puis le VIH de type 2 est résistant à plusieurs des traitements antirétroviraux qu'on utilise contre le VIH de type 1, dont les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse puis de l'inhibiteur de fusion. Donc, l'Apretude, le cabotegravir, c'est vraiment indiqué pour le VIH de type 1.
Bon,
Fin de la parenthèse.
petit moment où Amé veut vraiment continuer de nous faire savoir qu'elle est plus connaissante que nous. Check!
En plus, c'est des classes de médicaments, là. On a l'air fou un peu, Nico. On est pharmacien après tout, hein?
Ouais, comment je te dirais bien ça? Il y a des domaines que j'ai abandonnés avec les années.
L'oncologie, le VIH.
Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça.
Vous remarquerez que je ne suis pas rentrée dans les différents mécanismes là, de comment fonctionnent les antirétroviraux. Mais bref, retenez que c'est pour le VIH de type 1. Puis en clinique, quand on reçoit nos tests de sérologie anticorps, anti-VIH, ben c'est précisé type 1 et type 2. Donc, normalement, on a la distinction.
Là, soyons clairs, en même temps, dans le cas de la PrEP, je comprends que c'est l'indication de Santé Canada, mais le but d'une PrEP, c'est d'empêcher des gens d'avoir le VIH. Fait que, a priori, tous les gens impliqués, c'est ça, t'sais. Ils peuvent pas sélectionner une exposition à un type ou à un autre, là.
Effectivement. Donc, le médicament est indiqué pour les adultes et les adolescents d'au moins 12 ans et pesant plus de 35 kilos, basé en fait sur. On n'a pas vraiment d'études cliniques d'envergure. Pour ça, là, c'est plus des données pharmacocinétiques. Donc, ce médicament-là, c'est un médicament qui se donne en injection intramusculaire. Ça doit être donné dans le muscle fessier et être administré par un professionnel de la santé. On donne généralement des doses de 600 mg en injection une fois par mois pendant 2 mois. Puis après ça revient à chaque 2 mois par la suite. On a une espèce de jeu là, de plus ou moins 7 jours par rapport à la date prévue pour donner l'injection.
Là, peut-être juste là, parce que on voit pas ça souvent, on dirait. Là, je veux dire, même les médicaments récents, il me semble, ils se forcent pour inventer un paquet de noms commerciaux différents, même quand c'est la même affaire, là, genre le Wegovy, puis l'Ozempic et compagnie. Mais on parle de cabotegravir, on parle de nom commercial d'apprétude. Pour une raison que j'ignore, il y a la forme injectable que tu viens de décrire, mais il y a une forme orale aussi qui porte très exactement le même nom.
Oui, exactement.
Fait que pour éviter toute confusion, là, ici, on parle vraiment que de la forme injectable, là.
Oui. En fait, la version orale, elle existe à 30 mg. On peut la donner en dose test avant de commencer le traitement en injection. Dans la monographie, ils recommandent généralement une durée de minimalement 4 semaines. Puis ça, c'est vraiment pour évaluer la tolérance aux médicaments. Mais cette étape-là n'est pas obligatoire. On peut débuter d'emblée le traitement par injection parce que comme on reviendra plus tard dans les effets secondaires, c'est généralement un médicament qui est bien toléré. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de passer par cette étape-là de dose
Parfait.
orale.
Parfait. Donc là, la question, c'est OK, fine, super pratique. Déjà d'emblée, une injection aux 2 mois, je veux dire, je vois l'intérêt là, par rapport à une pilule à tous les jours, mais ça marche aussi bien.
Oui, donc en fait, l'efficacité et l'innocuité du cabotegravir injectable en PrEP pour le VIH de type 1 ont été évaluées principalement dans deux études contrôlées à répartition aléatoire double insu et double mannequin contre, en fait,
T'as beaucoup de mots dans ta phrase, je trouve, quand même, là, il me
OK.
semble. Là. Fait qu'on parle, bref, d'une étude randomisée contrôlée, là, en bonne et due forme telle qu'on la connaît. À double mannequin, on se rappelle, c'est notre traduction libre de double dummy.
C'est ça, c'est-à-dire, comme il y en a un en injection, puis l'autre qui est en voie orale, ben en fait, on a un placebo respectif de l'autre forme dans chacun des groupes.
Fait que juste ça soit clair, là. D'un bord, les gens recevaient les injections de cabotegravir avec des pilules à tous les jours de placebo de Truvada. Puis de l'autre bord, les gens recevaient le Truvada oral à tous les jours et un placebo d'injection, c'est ça?
Exactement.
OK, parfait.
Donc, dans les deux études, la première, c'est l'étude HPTN 83. C'est une étude internationale qui a été publiée dans le New England en 2021, qui a été financée par l'industrie. L'étude comparait en fait l'injection de cabotegravir 600 mg intramusculaire aux 2 mois à une combinaison d'emtricitabine tenofovir disopropyl fumarate, donc de Truvada, à raison d'un comprimé oral là, une fois par jour. L'étude a été réalisée auprès de 4 566 femmes transgenres ou ARSA qui étaient à risque de contracter le VIH, pardon. Donc, un peu comme Oli disait tantôt, là, dans les pratiques à risque qu'ils ont retenues dans l'étude pour contracter le VIH, c'était les patients qui avaient eu des relations anales réceptives sans condom dans les 6 mois précédant l'étude. Ceux qui avaient eu plus que 5 partenaires sexuels dans les 6 mois précédents, là, sans égard à l'utilisation du condom ou du statut VIH du partenaire. L'utilisation de n'importe quelle drogue stimulante dans les 6 mois précédant l'étude. Et ceux qui avaient eu un diagnostic de chlamydia, gonorrhée, rectale ou urétrale ou de syphilis dans les 6 mois précédant l'étude.
Fait qu'un peu, effectivement, comme il disait, bref, c'était pas. Pour être inclus, on ne pouvait pas être que
Arsène.
un œil ménage sexuel avec des hommes ou d'une femme transgenre, il fallait aussi avoir un minimum de comportement qui met la personne à risque, là, finalement.
Exactement. Donc, l'issue primaire, en fait, de l'étude, c'était l'incidence d'infection par le VIH. L'étude était prévue pour durer là, environ 153 semaines, mais elle a été cessée prématurément après 1,4 ans en raison de la supériorité du cabotegravir par rapport au Truvada oral. On a répertorié 12 cas de VIH dans les patients sous cabotegravir, ce qui correspondait à 0,37 cas par 100 personnes années, contre 39 dans le groupe Truvada, ce qui correspondait à 1,22 cas par 100 personnes années, donc un rapport de risque instantané de 0,31.
C'est quand même impressionnant, il me semble, à vue de nez, parce qu'on se rappelle que la PrEP orale, pour y réécouter l'épisode 136 au besoin, mais est déjà un traitement, ma foi, pas mal efficace là, avec des réductions de risque de VIH. Là. Bon, ça dépend des études, ça dépend de l'observance, de ci, de ça, mais genre au-dessus de 80 % clairement, puis dans certaines études, même des chiffres là, plus proches du 95 %.
Tout à fait.
Fait que même par rapport à ça, on réussit à démontrer une diminution significative, autant statistiquement, je dirais, que cliniquement. C'est sûr, les chiffres absolus, bon, c'est pas énorme, ce qui est une bonne nouvelle, clairement. Ça montre que dans les deux groupes, probablement que les traitements ont offert quand même une bonne efficacité. Mais T'sais, notre seuil de significativité clinique pour des cas de nouveau de VIH est probablement très, 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 très bas, hein, soyons clairs.
Oui, c'est pas une réponse de traitement, mettons, pour améliorer la douleur pour l'arthrose du genou. Là.
Non, c'est, non, quand c'est même, ça, tu sais.
C'est quand même une issue cliniquement très, très grave, là, contracter le VIH. Donc oui, tout à fait.
Oui. Puis, dans le fond, la deuxième étude, c'est l'étude HPTN 84.
Et ils sont pas forcés.
Hein, ouais, non, mais j'allais, vraiment, je me suis retenu tantôt.
C'est vrai, d'habitude, on a des noms un peu plus le fun. Donc, dans l'étude HPTN 84, on a comparé les mêmes traitements, mais cette fois-ci chez 3224 femmes cisgenres en Afrique subsaharienne qui étaient aussi à risque de contracter le VIH. Puis, encore une fois, l'étude a été arrêtée prématurément là, pendant au moment d'une analyse intérimaire après une durée de suivi médiane de 1,2 ans en raison de la supériorité du cabotegravir par rapport au Truvada. À ce moment-là, on avait 3 cas qui correspondaient à 0,15 cas par 100 personnes années dans le groupe cabotegravir contre 36 cas, donc 1,85 cas par 100 personnes années dans le groupe recevant le Truvada, donc avec un rapport de risque instantané de 0,1.
Quand même, là, on parle d'une diminution relative de 90% ici, là.
Tout à fait.
Bon, encore une fois, petit nombre absolu des deux bars, quand même. Là. Je pense que c'est important de le rappeler, là. En absolu, ça ne donne pas des chiffres incroyables, mais pour sauver des cas de VIH, je pense que ça reste tout à fait cliniquement pertinent.
Oui. C'est quasiment 0 cas par 100 personnes année, là. C'est très impressionnant.
Absolument.
C'est sûr qu'après ça, on peut toujours discuter, ben, en fait, de l'avantage du cabotegravir qui est en injection. C'est sûr que probablement, ça favorise la compliance aussi au traitement.
Ah oui, on peut certainement penser que, je ne sais pas à quel point, en fait, on s'attend à ce qu'il y ait une différence d'efficacité en termes d'activité pharmacologique de la molécule. Il y a fort probablement quelque chose lié, effectivement, à la stabilité de l'exposition aux médicaments puis à l'observance, là.
Exactement. Bien, ça plaît à l'esprit, du moins. Donc, voilà. Fait que des résultats quand même intéressants là, au niveau des diminutions de risque relatif de contracter le VIH qui tourne entre 70 et 90 dans le groupe cabotegravir par rapport à la combinaison de Truvada.
Et tu sais, je veux quand même revenir sur le fait que le Truvada, c'est un traitement démontré très efficace déjà. Fait que, parce qu'on dirait que ça, quand je regarde juste les chiffres absolus, c'est pas énorme. Là, ça ferait pas des NNT incroyables. Mais quand on met ça en comparaison avec rien, puis évidemment, bon, il n'y avait pas de groupe placebo point là-dedans, parce que j'imagine qu'éthiquement, là, ça commence à être gênant. Mais si on le met par rapport à l'absence de traitement, je veux dire, on s'attend à un pourcentage d'efficacité puis à des chiffres absolus franchement plus importants, là.
Comme disait Oli tantôt, je pense que c'est ça la pertinence aussi, là, d'en discuter puis de questionner nos patients pour pouvoir leur proposer des traitements qui, justement, sont très efficaces, là.
Très fort. Fait que ça marche? Y a-tu des gros enjeux au niveau de la tolérance ou ça va?
Fait que généralement, très bien toléré. L'effet le plus fréquent, c'est vraiment plus une réaction au site d'injection, là. Fait que douleur, un peu de réaction inflammatoire, qui généralement survenait chez 60 % des utilisateurs. Dans les autres effets secondaires, on avait des effets comme la diarrhée, les céphalées, la fatigue, les troubles de sommeil, les nausées, les étourdissements. Puis c'était relativement comparable à ce qui est rapporté là, avec les combinaisons d'emtricitabine-tenofovir.
OK. En même temps, c'est une injection intramusculaire. Là, fait que c'est sûr que pour ton inconfort à l'injection, puis tout ça, je ne suis pas étonnant.
Mm-hmm. Tout à fait. Sinon, dans le groupe cabotegravir, il y avait environ 5 % de plus de patients que dans le groupe Truvada qui ont présenté une prise de poids significative, donc de plus que 10 % du poids pré-traitement.
Fait que 5 % plus de chances avec le cabotegravir pris pendant, au final, on dit dans les études, mettons à peu près un petit peu plus d'un an, on va dire, de prendre 10 % de ton poids initial.
C'est ça.
Quand même, ouais.
C'est quand même pas négligeable.
Ouais. Ça mérite d'être mentionné aux patients pour qu'ils prennent sa décision en bonne connaissance de cause.
Mm-hmm, tout à fait. Sinon, dans les trucs plus graves, là, il y a de rares cas d'hépatotoxicité puis de réactions cutanées graves. Mais par contre, ça reste que c'est pas recommandé avec le cabotegravir de faire un suivi de la fonction hépatique ni de la fonction rénale pendant le traitement. Évidemment, si votre patient présente des signes d'insuffisance hépatique, ça vaut la peine de faire un bilan. Fait que sinon, relativement bien toléré là, pour le cabotégravir. Au niveau des interactions, peu d'interactions, ça, c'est surtout contre-indiqué chez les personnes qui utilisent des inducteurs puissants de l'UGT1A1 ou UGT1A9. Là, vous allez être meilleur que moi là, pour
Hey
dire
boy,
en quoi ça
et tu serais
concerne.
déçue là, Madame Gravel
Mais pour faire plutôt
là. Ali, toi, t'aimes-tu mieux l'UGT 1A1 ou plus, t'es plus la 3, la 7
Moi, honnêtement, après les cytochromes, je deviens un peu mélangé, là, les UGT, les OAT, les PGP, tout ça, c'est bien compliqué.
Mais regardez, je vais vous donner des noms, ça va être plus facile. Fait que contre-indiqué chez les personnes qui utilisent de la carbamazépine, de l'oxcarbamazépine, du phénobarbital, de la phénitoïne ou de la rifampine.
Bref, des inducteurs de toutes,
Oui,
puis
c'est
ben,
ça.
c'est assez niché là, au final. Là.
Voilà. Il y avait juste, par contre, t'sais, des enjeux à mentionner là, qui ne sont pas négligeables, c'est que le cabotégravir n'est pas indiqué comme traitement du VIH. Donc, c'est important de vérifier que le patient est séronégatif avant chaque injection pour éviter que le virus développe une résistance aux médicaments. Fait qu'avant chaque injection, on doit procéder à une recherche d'anticorps anti-VIH puis un dosage d'ARN-VIH.
J'entends ça, ça paraît peut-être un peu lourd, mais en même temps, c'est ça. Il faut quand même se rappeler que c'est des personnes avec des comportements sexuels à risque d'attraper des infections transmises sexuellement. Donc, des patients chez qui, de toute façon, on va vouloir faire un monitoring régulier des infections transmises sexuellement, puis pas juste du VIH, là, des autres affaires aussi. Bon, en pratique, mettons un patient sous PrEP orale, on les fait peut-être pas aux 8 semaines, là, mais ça reste quand même des gens qui ont à passer des bilans de façon très fréquente de base, là.
Exactement. Donc, ce que ça change, c'est que plutôt que le faire, tu sais, habituellement, c'est environ ou 3 mois, ben là, c'est, ça doit être devancé avant chaque dose, de façon, stricte.
Bon.
L'autre enjeu avec le cabotégravir, c'est qu'il y a une très longue durée d'élimination. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'arrêt, le patient reste exposé à des doses sous-thérapeutiques pendant longtemps. Puis pour éviter que le patient contracte le VIH s'il reste à risque de le contracter ou que le virus développe une résistance au traitement, ben c'est important de débuter une autre PrEP orale dans un délai de 8 semaines après l'arrêt. Donc, en gros, si on veut arrêter le cabotégravir, dans un délai de 8 semaines, il doit y avoir un relais qui est fait avec une autre PrEP orale et ce, pour minimalement 12 mois, le temps que le cabotégravir soit éliminer complètement, puis que ça évite que le patient augmente son risque de contracter le VIH ou de développer une résistance.
Fait que ça aussi, c'est probablement quand même quelque chose à mentionner, on dirait, à l'initiation, j'ai l'impression. Pour peut-être anticiper des affaires, voir la personne, elle pense garder ça combien de temps, est-ce qu'elle est ouverte à l'idée d'utiliser une PrEP orale par la suite. Évidemment, tout ça est dans le contexte où la personne continue d'avoir des comportements sexuels à risque, là. Mais je pense que c'est important probablement d'en parler dès le début, puis de ne pas attendre de faire face à une situation X, Y, Z où le traitement doit être cessé, là.
Tout à fait. Puis il faut continuer aussi dans le même principe, pendant cette même période-là, à chaque 3 mois, de faire un dépistage de VIH, puis de continuer à faire un autre dépistage également là, pour les autres ITSS de façon régulière.
OK.
Petit mot sur les femmes enceintes et qui allaitent. On n'a pas vraiment de données. L'utilisation est peu documentée, puis on devrait probablement laisser la prescription du cabotégravir là, pour ceux qui ont une pratique spécialisée dans le domaine.
Ouais, ça déborde probablement un peu la première ligne, là,
Voilà.
l'utilisation de ces traitements-là chez la femme enceinte.
Exactement. Alors, tu me diras, comme toujours, mais combien ça coûte?
Ah ouais, je dis ça toujours.
Ça vaut-tu la peine? Donc, une dose de 600 mg de cabotégravir, c'est environ 1 700 $ par mois, excluant les frais et honoraires du pharmacien, et c'est couvert par la RAMQ.
Ouais, c'est quand même cher, mais on s'entend que vu l'efficacité et le besoin thérapeutique, ça se défend très bien, je pense.
Si on veut faire une comparaison, là, dans le fond, le Truvada, qui est disponible en version générique, coûte environ 200 $ par mois, puis c'est couvert par la RAMQ. Le Descovy, lui, c'est environ 800 $ par mois, puis c'est pas couvert par la RAMQ.
Okay, avec, bref, de l'argent, mais c'est ça. C'est sûr que quand on le met en perspective avec le type d'issue qu'on essaye de prévenir, on peut imaginer que c'est un ratio qui peut devenir intéressant quand même.
Tout à fait. Donc voilà, une option qui est une nouvelle option intéressante, qui fonctionne bien, qui est administrée à tous les 2 mois, donc possiblement des enjeux favorables sur la compliance. Donc une nouvelle arme à notre attirail de PrEP.
Puis, on n'a pas mis l'emphase là-dessus, là, mais il y a aussi quand même un autre avantage par rapport à la PrEP orale. Mettons, on doit faire avec la PrEP orale un monitoring rénal.
Oui.
Fait que, tu sais, il y a ça, il y a les interactions aussi au niveau rénal. Il y a certains médicaments avec lesquels il faut être prudent ou il faut éviter quand on prend la PrEP orale. Fait que, tu sais, il y a quand même quelques autres avantages, peut-être un petit peu plus nichés, là, mais au-delà de la compliance, de la simplicité et de l'efficacité.
Mm-hmm.
Fait que bref, quand même, je veux dire, un produit super intéressant au final, là, puis on en a parlé dans le dernier épisode, nouveaux médicaments, là, des produits super intéressants qui arrivent sur le marché,
ça court plus les rues.
On n'en voit pas souvent, fait que chapeau au cabotrigravir injectable.
Mm-hmm.
Puis là, même, Oli, il y a un autre PrEP injectable qui s'en vient, encore plus cool.
Qu'elle vient tout juste d'être approuvée par Santé Canada il y a quelques jours. On ne pourra pas dire qu'on n'est pas à jour au Pharmascope. C'est le Lena Capavir qui est approuvé au Canada sous le nom de Yituo pour la formulation destinée à la PrEP.
Je tiens quand même à dire que c'est disponible aux États-Unis depuis, je ne sais pas, là, un petit bout de temps.
Mm-hmm.
Puis on changeait le nom commercial, puis je trouve ça quand même dommage parce qu'aux États-Unis, si j'ai bien lu, ça s'est plutôt commercialisé sous le nom de Yes to Go.
Oui, tout à fait. Quel beau
ça,
nom.
Je trouve ça excellent, mais je sais pas si c'était déjà breveté au Canada puis ils ont dû trouver autre chose ou ils étaient déçus finalement de leur trouvaille. Là, mais Yituo, on dirait que c'est moins ça.
Ça sonne moins bien en bouche. Hein?
Il y a moins de messages. Il y avait tout dans Yituo. Un, ça s'écrivait YZ. Fait que pour la partie de Scrabble international, là, ça part fort. Puis Yituo, je sais pas. Il me semble qu'il y a tout là-dedans. Yituo, ouais. C'est vraiment... Bref. Fait que, tu disais, nouvelle formulation approuvée au Canada il y a quelques jours, fait qu'à notre connaissance, pas encore disponible au moment d'enregistrer.
Mm-hmm. Par contre, depuis 2022, il faut mentionner, au Canada, là, il y a une formulation de lenacapavir qui est disponible pour le traitement du VIH multirésistant. C'est son indication officielle. C'est disponible sous le nom de Sunlenca. Et puis, en fait, c'est à la même dose, en fait, que ce qui est utilisé pour la PrEP.
Ah, OK. Fait qu'on a quand même déjà accès au produit, dans le fond.
Tout à fait.
OK. Donc, qu'est-ce que ça a de spécial, ce médicament-là?
Ben, en fait, c'est le premier médicament d'une nouvelle classe, là, la classe des inhibiteurs de la capside du VIH1. Je ne sais pas trop ce que ça fait dans la vie, là, mais c'est probablement bon signe d'avoir des nouvelles classes de médicaments dans le traitement et la prévention du VIH.
Probablement.
On s'entend. Sinon, ça s'administre à la dose de 927 mg en 2 injections sous-cutes de 1,5 ml chacune.
Non, fait qu'en plus, c'est sous-cutané, celui-là?
Oui, c'est sous-cutané.
Intéressant.
Cet avantage-là, moins de douleur puis moins de réaction, on l'imagine, au site d'injection quand même, lorsque c'est sous-cute.
927 mg, je trouve ça précis pas mal, mais écoute, pourquoi pas?
Je pourrais pas t'expliquer le rationnel de la chose. Sinon, c'est important de mentionner que pour ce médicament-là, à la première injection, il y a une dose de charge PEROS qui doit être utilisée de lenacapavir, 600 mg les jours 1 et 2. Puis par la suite, on n'a pas besoin de utiliser les formulations PEROS aux injections subséquentes.
Fait que contrairement au cabotegravir, que c'est comme optionnel, juste pour tester la tolérance, là, on a besoin d'un loading oral.
C'est une question d'efficacité.
Selon aller chercher des concentrations sériques suffisantes rapidement.
Exact.
D'accord.
Sinon, brièvement, il y a 2 grandes études randomisées contrôlées qui ont mené à la commercialisation du lenacapavir aux États-Unis, les études Purpose 1 in 2. Donc, toutes 2 publiées dans le New England. J'imagine, Nico, que tu trouves les noms d'études un petit peu mieux que les précédentes. Là.
Bien, c'est sûr que HPTN 83 et HPTN 84, là, on a vu mieux. On a vu mieux.
le but, c'est pas de faire une revue exhaustive de ces 2 études-là, mais juste revenir un peu sur leurs résultats puis voir, grosso modo, qui était inclus. Là. L'étude Purpose 1 portait sur environ 5000 adolescentes et jeunes femmes cisgenres qui avaient des relations sexuelles avec des hommes et qui venaient d'Afrique du Sud et de l'Ouganda. Puis, dans cette étude-là, en termes de résultats, on a observé 0 cas de VIH par 100 patients année dans le groupe lenacapavir contre 2,02 dans le groupe Descovy et 1,69 dans le groupe Truvada. Donc, ici, une supériorité quand même assez claire. Puis, quand on regardait l'incidence de VIH dans la population dépistée au début de l'étude, c'était 2,41 cas par 100 patients année.
Donc, une efficacité qui semble, ma foi, très solide.
Tout à fait, tout à fait. Puis c'était pas mal la même chose aussi dans l'étude Purpose 2, qui portait cette fois-ci sur 3000 personnes. Ça incluait des hommes cisgenres ou transgenres, des femmes transgenres et des personnes non binaires qui avaient des relations sexuelles anales sans condom avec des hommes. Puis là, on a observé dans cette étude-là 0,10 cas de VIH par 100 patients année dans le groupe lenacapavir contre 0,93 dans le groupe Truvada. Puis l'incidence de VIH dans la population dépistée à la base, c'était 2,37 cas par 100 patients année. Donc, encore une fois, une supériorité très intéressante.
Intéressant. Je ne sais pas, par contre, avec une administration aux 6 mois, ça veut dire une demi-vie à peu près interminable. Fait que le fameux enjeu, là, une fois que tu arrêtes le traitement, qu'on a discuté avec la cabotégravir, où tu dois débuter une PrEP orale, la durée n'est pas super claire, là, soyons clairs, mais on parle d'au moins 12 mois pour prévenir le risque que tu contractes le VIH puis qu'il soit exposé à des petites concentrations de médicaments puis que tu te ramasses avec des souches résistantes et des problèmes. Avec un médicament en 6 mois, si tu l'arrêtes, faut-tu que tu prennes une préparale pendant genre 8 ans?
Ben, c'est une excellente question. Puis en effet, il y a le même enjeu qui est soulevé dans la monographie américaine de ce médicament-là. Puis c'est recommandé de faire un relais à de la PrEP PEROS aussi. Par contre, c'est un médicament qui est quand même assez récent. Donc, la durée du relais PERA, c'est pas encore super clair. Là. Il n'y a pas de directive coulée dans le béton sur cette durée-là. Ça viendra probablement dans des études subséquentes, là, pharmacocinétiques, là, probablement.
OK. Bon, ben, intéressant, en tout cas. Chapeau, yes to go. Rappelez-moi de jamais devenir genre membre d'un comité éditorial d'une revue scientifique, parce que clairement, je vais juste choisir basé sur le nom des études.
Hey, petit mot sinon pour dire que le fabricant est en train de développer une formulation de lenacapavir à administrer une fois par an seulement. Ils ont publié une petite étude dans le Lancet tout récemment. Là. Donc, il semble y avoir beaucoup de recherches en cours sur la PrEP et sur des modalités de plus longue action que la PrEP PEROS.
Mon Dieu, il y a de l'innovation dans le monde de la PrEP.
Mmh. Puis, ben, rendu là, tu fais un relais PEROS pendant 22 ans.
Bon, ben super. Fait que je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait jaser sur la PrEP, plus précisément sur le cabotégravir injectable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose avant qu'on quitte?
Ben non.
Non, pas pour ma part. Je pense qu'on a fait le tour. C'était une belle petite mise à jour.
Fait qu'en terminant, un petit message habituel, si vous avez des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires, vous écrivez à Oli. Nous, ben, on s'en parle bientôt.
Ciao, ciao.
Salut.
Bye, là.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.